Bonjour et bienvenue pour ce nouveau message de l'Église Hillsong France. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter www.hillsong.fr.
Vous avez vos Bibles ? Alors on y va direct. Vous avez vos Bibles ? Matthieu 28 ? Vous pouvez prendre vos Bibles papier, numérique, Bible mémoire, je ne sais pas comment on dit ça. Pour les plus forts d'entre nous. Matthieu 28. Il y a deux mois de ça, on a célébré ensemble Pâques. Je ne sais pas vous, mais moi, Pâques, c'est un des week-ends les plus merveilleux. Parce qu'on prend du temps particulièrement pour se remémorer, surtout pour célébrer ensemble l'événement central qui fait qu'on est là, qu'on est vivant, qu'on est rempli d'espoir et de vie et de joie. C'est le fait que Dieu lui-même soit venu sur la terre pour mourir à notre place. Donc c'est ce qu'on célèbre à Pâques, et on célèbre aussi le fait qu'il soit ressuscité pour démontrer de manière éclatante que ça y est, c'est fini, la mort ne sera plus jamais un obstacle. Il n'y a plus rien qui pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Donc on a célébré ça tous ensemble il y a deux mois de ça. On a célébré le fait que quand Jésus a crié sur la croix, tout est accompli, ça signifie bien ce que ça signifiait. Tout est accompli, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun effort à faire pour s'approcher de Dieu, pour que Dieu nous aime un peu plus ou un peu moins. Il n'y a plus rien, tout est accompli, plus rien ne nous séparera jamais de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On a célébré ça il y a deux mois, mais je ne sais pas vous, mais je sors d'un week-end comme ça et je me dis, cool, on est arrivé au bout, ça y est, c'est bon, c'est fait, il n'y a plus qu'à profiter maintenant, Seigneur, jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que je peux aller aux Antilles, sur une île, vivre en maillot de bain, en tongs, dans un hamac au bord de la mer, et juste attendre que tu reviennes ? Personne n'a jamais eu cette pensée ? Ah, ouais. Qu'est-ce qu'on fait à Paris ? Parce que Paris, c'est la plus belle ville du monde ? Ouais, carrément. Et ça tombe bien, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant de partir. Il a fait, ok, maintenant, ça y est, c'est bon, j'ai tout fait. Maintenant, vous pouvez aller vous cacher, attendre, vivre tranquillement jusqu'à ce que je revienne. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus ? Matthieu 28, 18, vous êtes avec moi ? Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça y est, j'ai enfin réuni les 6 pierres d'infinité. Il y a des fans de Marvel ici ? C'est bon ça. Marvel, je pourrais vous faire toute une série de messages sur les Marvel. Il y a tellement de principes bibliques là-dedans. Hein ? Victor, c'est Captain America.
Ouais.
Gérald, c'est Hulk. En beaucoup plus beau, Gaël, Doctor Strange. Hey, il fait des trucs de malade. Il sait même pas qui c'est. Oh Gaël, il faut refaire tout le temps. Oh. Ok, revenons à nos moutons. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'ai réuni toute autorité. Ça y est, avant j'avais seulement le ciel. Maintenant j'ai le ciel et la terre. Il n'y a plus de zone d'ombre. J'ai toutes les pierres d'infinité. Thanos les défoncer. Il a plus aucun pouvoir. Le grand méchant, même si vous ne connaissez pas Marvel, le grand méchant qui veut tuer tout le monde, lui, il n'a plus aucun pouvoir. Ça y est, c'est fini. Tout pouvoir m'a été donné. Ça y est, j'ai accompli ma mission. Maintenant, verset 19, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc voilà ce que Jésus fait. Juste avant de partir, il leur dit « Ça y est, c'est bon, j'ai accompli ma mission. » J'ai gagné, tout est bon, maintenant vous, allez. Et il leur dit juste pas allez et faites des petites choses. Non, il leur donne la mission la plus grandiose, la plus énorme, la plus gigantesque de toute l'histoire de l'humanité. Allez, juste vous, là, les quelques dizaines d'hommes, allez et touchez toute l'humanité. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-leur ce que je vous donne. C'est genre le genre de mission qui est mission impossible. Si vous prenez des notes, vous pouvez noter le titre, Mission Impossible. Moi je me dis, pourquoi Jésus fait ça ? Moi, si j'avais été en présence de Jésus, je lui aurais dit, attends, ok, t'es mort. Tu as dit dans Luc 4, qui n'est pas encore écrit, mais tu as dit dans Luc 4, je suis venu pour libérer les captifs. Ok, t'es venu libérer, t'es mort, t'es ressuscité. Ça y est, on est libre de tout notre passé, toutes les addictions, on est libre de tout ce qui nous emprisonnait, on est libre. pourquoi est-ce que maintenant tu nous mets dans une prison d'un poids, d'une mission qui est tellement énorme que déjà ça prendrait toute ma vie et je ne sais absolument pas comment y arriver, une mission impossible comme ça. Ça vous est déjà arrivé de d'entendre ça et de vous dire, mais est-ce que je peux retourner à avant ? Non, on ne dit pas ça quand même, ce n'est pas possible. Est-ce que je peux retourner quand j'étais... Ok, c'était peut-être un semblant de liberté. J'avais une illusion de liberté, de faire ce que je voulais quand je voulais. Mais là, c'est juste ma vie, elle est en boîte. Et c'est énorme, c'est impossible. Donc, j'ai envie d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui, mission impossible, parce que c'est tellement important. Parce que cette mission, quand on est chrétien, on n'a pas le choix de la mission. Jésus nous a dit, ok, vous êtes mes disciples, voilà votre mission. Pour les non-croyants, Jésus leur dit, viens, venez, déchargez-vous. Quand on est croyant, il dit, allez, bouge-toi, sors de là. On n'a pas le choix de la mission. Maintenant, ce qui est super important, c'est le cœur et la motivation avec lesquels on va accepter la mission. Si on a le bon cœur, on va rentrer dans cette mission et ça va nous détruire et ça va détruire les autres en même temps. Ça va nous drainer, on va essayer d'accomplir quelque chose par nos propres forces et on est mort. Si on a le mauvais cœur. Si on a le bon cœur, à ce moment-là, c'est la vie assurée et la plénitude de ce que Dieu a pour nous. C'est ultra important pour nous de réfléchir et de se dire, ok, comment est-ce que j'aborde, comment est-ce que j'accepte, comment est-ce que je prends la mission de Dieu. Ça vous intéresse ? On a tous cette mission. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus fait ça ? On ne peut absolument pas mettre en doute l'amour de Dieu pour nous. Dieu n'avait pas besoin de petits soldats. Il n'est pas venu sur la terre en se disant, j'ai besoin d'une armée. Ok, bah alors il faut juste que je meure, que je ressuscite. Ok, facile. Non, il n'avait pas besoin de petits soldats. Il peut tout faire sans nous. Il est venu par amour pour être réconcilié avec nous. Donc l'amour de Dieu ne peut pas être mis en question. Donc pourquoi est-ce que Jésus nous met une responsabilité comme ça sur les épaules, individuellement et collectivement ? Il y a beaucoup de pistes. Il y en a une déjà, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes, on se connaît, et en tant que créateur, et il sait qu'il nous a créés pour être en mission. Dans le sens où, dans notre vie, et dans ma vie, s'il n'y a pas de mission, c'est le bazar. Ça part dans tous les sens. S'il n'y a pas de mission, c'est je fais ce qui me plaît, au moment où ça me plaît, comme je le ressens, ou comme les personnes autour me disent, enfin, mais il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Je sais au plus profond de moi quelles sont les bonnes choses, mais je n'organise pas forcément ma vie pour aller vers ces choses-là. Un exemple simple, à partir du mois d'avril, avril-mai, on entend parler de Bikini Body. Moi, chaque année, en avril, je me dis, oh, dans quelques mois, je vais être en maillot de bain. Non, absolument pas. Mais certaines personnes se disent, ouh, dans 2 mois, je vais être en maillot de bain, il va falloir que je fasse attention à mon régime. Ma question, c'est, entre septembre et avril, est-ce que tout le monde se dit, je vais manger comme un porc, ça va déborder de partout, je ne vais pas prendre soin de... Non, personne. Tout le monde a envie d'avoir un corps, de se sentir en bonne santé, plein d'énergie et tout ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas quelque chose qui est juste devant pour se dire, oh, oh là, il vaut mieux que je m'active. Quand on n'a pas de mission, ça part dans tous les sens. Quand notre vie n'a pas de ligne directrice et de mission, on construit nos vies comme Numéro Bis construit des maisons. On va chercher très haut niveau culture aujourd'hui. Vous êtes avec moi, Astérix et Obélix. Numéro 8, c'est un architecte égyptien. Il construit des maisons et il dit ça, c'est de moi. Qui a dit qu'on ne pouvait pas construire comme ça ? Et on avance un petit peu et puis ça, bah ça aussi c'est de moi. Parce que je le sentais comme ça. Voilà, mettre une colonne au-dessus de la porte, on ne sait même pas comment ça tient. Bah, pourquoi pas ? Mais le problème c'est qu'on arrive à un moment donné dans la vie où on construit comme bon nous semble et puis on arrive à un moment donné et comme numéro 8, on fait bah, ça... Ah, ça, c'était de moi. Qui ressemble à numéro bis ici ? Ah, non, levez pas la main. Je vous êtes déjà demandé, quand vous êtes dans le métro et que vous voyez quelqu'un qui fait de la manche et qui joue de la musique à 50, 60 ans, est-ce qu'à un moment donné, au début de sa vie, il s'est dit, ah, moi, mon rêve, c'est de faire la manche et la musique dans le métro à 50 ans ? Non. Et je ne veux pas minimiser, il y a des histoires de vie qui sont terribles et affreuses, et au contraire, apportant de l'amour et de la compassion, mais il y a tellement de choses, on construit notre vie. Ah ouais, ben là, en ce moment, je pense bien, je me mets à fond sur la musique, et puis au bout d'un moment, ça me saoule, donc tout ce que j'ai construit pendant des années, je le laisse de côté, et puis je vais me mettre à fond sur une autre passion, je vais construire une tour Eiffel en allumettes, enfin, et puis on passe d'une chose à l'autre, et puis j'investis à fond dans une relation, et puis à un moment donné, j'en ai marre, et donc je vais ailleurs, et on construit sans ligne directrice, comme un bateau qui est emporté par toutes les vagues. Quand il n'y a pas de mission, nos vies, c'est le bazar. Jésus sait qu'on a besoin de mission. D'ailleurs, Proverbe 29, 18 nous dit « Lorsqu'il n'y a pas plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre, heureux l'homme qui obéit à la loi. » Quand il n'y a pas de mission, on est esclave du passé. Si on n'a pas de vision pour notre avenir, on retourne toujours vers ce qu'on connaît, ce qu'on a connu. On retourne vers les habitudes et ce qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. Quand on n'a pas de mission, on est esclave aussi des circonstances extérieures. Peu importe où souffle le vent et où nous emmènent les vagues, on n'a pas de moteur qui nous pousse pour avoir une ligne directrice. Quand on n'a pas de mission, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est vulnérable aux attaques de l'ennemi. Voilà, les moments où j'ai le plus de mal à résister à la tentation, ou alors je me suis grave planté, et c'est dans des moments où il n'y a pas vraiment d'action, de mission, quelque chose, où c'est un peu l'ennui, c'est le désœuvrement, etc. Vous avez remarqué ça ? Les techniques du diable, elles n'ont pas changé. Hein. Depuis Adam et Ève, on retrouve les trois mêmes. Hein. C'est les pulsions de la chair qui n'est pas soumise à Dieu, c'est la convoitise des yeux, l'attrait des richesses. Enfin, c'est tout ce qui crie, en gros, Dieu n'est pas suffisant pour moi, j'ai besoin d'autre chose. Ça n'a pas changé. À ce niveau-là, il n'est pas très créatif, l'ennemi. Mais nous, par contre, on est beaucoup plus vulnérables quand on n'a pas un cap et une mission qui est beaucoup plus large que nous-mêmes. D'ailleurs, c'est intéressant, parfois on lutte contre des habitudes ou des addictions dont on a envie de se séparer, et plus on met le focus sur elles, plus c'est compliqué d'en sortir. Parfois on a juste besoin d'une belle, bonne, grosse mission, et le reste, ça part tout seul. Ça part tout seul. Sans mission, c'est le bazar. Au contraire, quand on a une mission, quand on est soumis à une mission, à ce moment-là, tout change. Là, il y a une direction, il y a de l'efficacité. C'est un peu comme, au contraire, les vents contraires, ça me fait m'élever. Vous savez, les avions, ils sont faits pour voler. Ils ne peuvent pas voler s'il n'y a que du vent dans le dos. Ils ont besoin de vent de face. Et à ce moment-là, les réacteurs, c'est un peu comme la mission. C'est je sais où on va, et du coup, on s'élève, et ça y est, je suis enfin créé pour ça. Quand on a une mission, on s'élève au-dessus des difficultés, on s'élève au-dessus des situations difficiles, parce qu'on sait où on va. Quand on a une mission, quand on est en mission, on arrête de trouver des excuses, et on va chercher des solutions, parce que je sais où je vais aller et je vais y arriver. Quand on est en mission, on prend des décisions qui sont plus grandes et plus larges. Tout le monde a envie de prendre soin de son corps et d'être plein d'énergie, mais si j'ai décidé, ce que je ne ferai jamais, de courir le marathon, à ce moment-là, je vais manger sainement, je vais faire de l'exercice, je vais me coucher plus tôt, je vais faire attention à ça, je vais m'entourer de personnes qui sont dans le même état d'esprit. À partir du moment où j'ai une mission, tout le reste va découler. Vous avez déjà remarqué ça ? Si je veux conquérir ou reconquérir le cœur de ma femme parce que je me suis aperçu qu'on s'est un peu éloigné, à ce moment-là, ça c'est l'objectif. Je ne vais pas lui acheter des fleurs parce que je sais qu'il faut acheter des fleurs régulièrement. Je ne vais pas juste lui dire je t'aime parce qu'elle m'a dit. Non, là je veux reconquérir, je veux redévelopper une intimité avec ma femme. À ce moment-là, ça va orienter la totalité de ma vie, ça va orienter mon budget, ça va orienter mes pensées, l'utilisation de mon temps et tout plein de choses parce que j'ai un objectif et je vais y arriver. Quand on est en mission, ça mobilise tout. Et quand on est en mission, les sacrifices sont faciles parce que j'ai la vue de quelque chose beaucoup plus grand. J'ai cette joie qui est placée devant moi. Quand on est en mission, on peut accomplir quelque chose de significatif et on met les choses en perspective. Donc, on a été créés, chacun d'entre nous, pour être en mission. Ça, c'est un concept de base. Donc, juste avant que vous vous précipitiez sur n'importe quelle mission qui se trouve devant vous, je vais aller sauver tous les scarabées de la Terre. Soyons conscients d'une chose, une mission ne sera jamais plus puissante que la cause à laquelle elle est rattachée. Ultra important. Un exemple, je me dis, super, je vais parcourir tous les pays de la Terre à pied. Pourquoi pas ? Si ma motivation première, c'est hey, j'ai envie de me faire plaisir et de marquer tout ça sur mon passeport. Pourquoi pas ? Ça ne va pas chercher très très loin. Maintenant, je peux avoir comme motivation de me dire je veux créer des relations et des passerelles entre les peuples et je veux mettre les différents pays en relation les uns avec les autres. Là, c'est déjà un peu mieux. Ou alors si je me dis, je veux que tous les peuples soient, rentrent en contact avec l'amour de Dieu, qu'ils découvrent le royaume de Dieu, qu'ils découvrent Dieu comme personne ne leur a jamais présenté, c'est-à-dire une proximité, un amour, un relationnel qu'ils n'ont jamais vu. À ce moment-là, la cause derrière l'action, la mission, elle est beaucoup plus grande. Et ce qui est génial, c'est que le reste s'emboîte, c'est-à-dire je vais créer des relations entre les peuples, je vais en profiter, etc. Si je veux développer beaucoup d'argent dans ma vie, si la cause de ma vie, c'est la peur de manquer, et ma motivation première, c'est d'avoir une sécurité qui est somme toute assez relative, ça va être très limité. Je peux passer toute ma vie à ça et construire une carrière et développer des business, etc. Ça sera assez limité. Après, je peux avoir une cause un peu plus noble de me dire je veux créer des entreprises où il va y avoir une éthique de travail qui est différente. Je vais créer quelque chose à contre-courant de ce qui se fait et prendre soin vraiment des personnes. Ça, déjà, c'est beaucoup mieux. C'est une vision uniquement terrestre, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'une vision uniquement égoïste et personnelle. Ou alors, je peux me dire je veux générer quelque chose, aller positionner le royaume dans le monde du business. Je veux aller positionner le royaume de Dieu qui va profiter à tout le monde, qui va ressourcer également le royaume pour l'avancer parce que j'ai une vision pour l'éternité. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que quand j'ai ça en tête, eh ben ça inclut aussi le fait de bénir toutes les personnes qui sont en contact avec moi, et ça inclut aussi la facilité et l'abondance dans laquelle Dieu veut et peut m'amener aussi. Vous voyez un peu comment ça s'emboîte ? Mais la cause, c'est ça qui va déterminer la puissance de la mission. Une mission ne sera jamais plus puissante que la cause à laquelle elle est rattachée. C'est fou comment parfois on perd beaucoup trop de temps et parfois même nos vies à prendre pour finalité ce qui n'a toujours été destiné qu'à être une étape. On peut prendre ça comme une finalité de notre vie, on y arrive, et il y en a certains qui arrivent assez rapidement et qui se disent « Ouais, et puis maintenant ?» Ne confondons pas les choses. La cause est ultra importante. Quelle est la mission de ta vie? Quelle est la cause? Je ne sais pas vous, mais moi je ne connais pas de meilleure cause que la cause de Christ. Jésus qui a dit en Jean 18, je suis né pour cette cause, pour rendre témoignage à la vérité. Ça, c'est le but de ma vie. Enfin, révéler la vérité à tous ceux qui la recherchent dans le monde. Donc, à partir du moment où on est disciple de Christ, on n'a pas le choix de la mission. Elle est là. Maintenant, on a la cause de Christ, rendre témoignage à la vérité. On a la mission, aller donc dans tout le monde. Quel est le message ? J'essaie de décortiquer un peu tout ce qui est contenu dans cette mission de Jésus-Christ. Quel est le message ? Parce qu'on peut prendre cette mission et la communiquer comme ça. Je viens vers toi et je te dis, tu sais quoi ? Ce que Jésus a dit, Dieu est avec moi, il n'est pas avec toi. Déjà, ça c'est clair. Donc, repens-toi, change, accepte Jésus, fais-toi baptiser, seulement à la manière dont moi je te dis que tu dois être baptisé, et puis suis toute cette liste de règles, et puis après on verra, ça devrait aller pour toi. Est-ce que ça, c'est le message qui est derrière la mission de Jésus? Absolument pas. On a besoin d'être clair sur le message. Le message, c'est quoi? C'est un message de réconciliation. On va regarder 2 Corinthiens 5, 19 ensemble, dans la version Parole vivante. En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres. Il nous a chargé de proclamer publiquement. Quel est le message qui est caché derrière cette mission? C'est pas comme si Dieu ne pouvait pas atteindre la terre entière, mais c'est par contre ce que Dieu a toujours voulu faire, et c'est ce que Jésus est venu accomplir sur cette terre, c'est nous communiquer enfin la réconciliation. Dieu n'est pas contre toi, il est pour toi, il est de ton côté, et Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu ne te condamne pas. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour juger, condamner le monde, je suis venu pour le sauver. Quel est le message qui est contenu derrière tout ça? Pourquoi aller faire de toutes les nations des disciples? Juste aller leur dire, Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu est pour toi, il est de ton côté, il t'aime et il t'aime de tout son cœur à tel point qu'il n'a pas hésité à donner son fils. Et c'est le genre de message qui pour être communiqué, doit être aussi vécu pleinement. Vous savez, ce genre de message, laisse-moi t'expliquer à quel point Dieu est bon. Dieu est bon parce que je le lis dans la Bible, etc. Ta famille est morte dans un accident de voiture, tes parents ont eu le cancer, etc. Alors, je vais trouver un moyen théologique d'expliquer que Dieu est quand même bon, même s'il a permis tout ça. Non, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Hé, viens, laisse-moi te montrer à quel point mon père, il est bon. T'as pas 50 balles? C'est le genre de message qui doit être vécu. Et c'est ce que Jésus leur communiquait aussi. Comme on a vécu pendant 3 ans et demi ensemble, vous m'avez vu voir, à chaque fois qu'il y avait un besoin qui était là, je savais aller chercher dans la bonté de mon Père pour répondre à chaque besoin. Je vous mets au défi de me trouver un endroit où Jésus a dit « Non, j'ai pas envie de répondre. » Non. Jésus, l'image exacte du Père, est venu révéler le cœur du Père. Dieu t'aime, il est pour toi et il est prêt à aligner la totalité de ce qu'il a dans le ciel pour ta vie. Alors on est tous sur le chemin, surtout sur le chemin d'arriver à découvrir comment, pourquoi, mais le cœur du Père lui-même ne change pas. Dieu est pour toi et comme un bon Père donne de bonnes choses à ses enfants, voilà le positionnement de Dieu et du Père envers toi. On est d'accord là-dessus ? Donc en fait, en portant cette mission et ce message, on va répondre aux 2 questions essentielles que les gens se posent depuis tout le début de l'humanité, c'est-à-dire qui est Dieu et qu'est-ce qu'il me veut ? Vous savez, dès le début, mettons les Grecs, ils voyaient la puissance des vagues et ils se disaient « Oh là là, c'est pas bon ça, il y a une puissance qui est derrière ça, on la connaît pas, peut-être on va mourir, etc. » Il doit y avoir un dieu derrière ça, il doit y avoir une puissance qui est plus forte qu'on ne connaît pas, on va l'appeler Poséidon. Et surtout, il faut essayer de pas le mettre en rogne. Ils voient la puissance du vent et ils disent « Ok, ça c'est beaucoup plus fort, ça peut mettre par terre notre maison, etc. » On va l'appeler, peut-être il y a le dieu, on va l'appeler Éole. Et lui non plus, il ne faut pas le mettre en colère. Et puis, il se crée toutes sortes de dieux un peu partout parce qu'il y a une puissance. Il y a beaucoup plus que je ne connais, que je n'arrive à le percevoir. Et j'ai absolument aucune idée de comment ces dieux-là vont agir envers moi. Voilà pourquoi Paul, quand il est arrivé à Athènes, il leur a dit « Eh, vous avez un hôtel à un Dieu inconnu, laissez-moi vous montrer ce Dieu, vous expliquer qui est ce Dieu. » Il est venu à notre rencontre, il est venu se révéler, et ça n'a absolument rien à voir avec toute l'image que vous pouvez vous faire de Dieu. C'est un bon papa qui vous aime et qui veut prendre soin de vous. Ça répond aux questions essentielles, qui est Dieu et qu'est-ce qu'il me veut ? Voilà ce que Jésus est venu démontrer et ce qui... Et contenu dans cette mission maintenant, ce que vous avez reçu et appris pendant ces 3 ans et demi, allez le communiquer. Vous êtes toujours là avec moi ? D'ailleurs, c'est intéressant de voir, dans ce qu'on a lu, Matthieu 28, c'est la mission elle-même est encadrée de puissance et de présence. Toute autorité m'a été donnée et moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. On ne peut pas accomplir une telle mission sans la puissance et la présence de Dieu, qui sont d'ailleurs les 2 caractéristiques essentielles de ce que le Saint-Esprit fait en nous. Le Saint-Esprit amène la puissance et il amène la présence de Dieu. Donc on a la cause, la mission, le message, et on arrive au moyen, au messager. C'est là où ça commence à devenir intéressant. Quel est le moyen ? On l'a lu ensemble. Allez, chacun d'entre nous. C'est même détaillé dans 2 Corinthiens 5:20. Puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeur du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ok, donc l'effet, c'est que Dieu nous a choisis, nous tous, comme moyen. Je ne sais pas vous, mais si j'étais à la place de Dieu et que j'avais payé un prix aussi fort que lui a payé, c'est-à-dire son propre fils, rejeté, méprisé, trahi, torturé, je choisirais le meilleur des moyens des haut-parleurs pour communiquer ça à la terre entière. C'est le plus beau message de toute l'histoire de l'humanité. Dieu qui vient à la rencontre de l'humanité et qui dit « Viens, reviens à la maison, je t'ai créé pour t'aimer, pour être aimé et on va vivre quelque chose de grand ensemble. » Alors la réalité, c'est que Dieu nous a confié tout ça. Nous sommes les messagers, nous sommes le moyen de Dieu. Donc de 2 choses, il n'y a que 2 options. Soit Dieu a mis absolument tout ce qu'il avait en Jésus-Christ et après il a fait « Ah mince, j'ai pas pensé, comment on va faire après ?» Tout ce que j'ai sous la main, c'est les quelques disciples. Alors, Ou alors, et ça écoutez-moi bien, c'est peut-être ça qui peut changer votre perspective totale de toute la vie par rapport à cette mission, ou alors, de toute éternité, Dieu avait en tête le meilleur des moyens pour communiquer ce message éternel, toi, moi et chacun d'entre nous. Ou alors, dans la mission que Jésus nous confie, se trouve une réalité éternelle qui peut transformer nos vies. Renault construit des Clio et des Formule 1. Jamais il va construire une Clio, même en y mettant tout son cœur, pour la mettre sur un circuit de Formule 1. Quand il construit une Formule 1 spécifiquement pour courir des courses de Formule 1. Donc si cette mission-là est positionnée sur nos vies et sur ta vie, qu'est-ce que ça dit de toi ? Est-ce que la mission, au lieu d'être un poids impossible, ne serait pas plutôt un révélateur que Dieu utilise pour élever ta vie et te dire « Voilà spécifiquement pourquoi je t'ai créé, voilà pourquoi je t'ai façonné, voilà ce que j'avais en tête depuis le début de l'histoire de l'humanité, même avant que la Terre existe, j'avais en tête que toi, tu portes mon nom sur ta vie, que tu sois mon ambassadeur, mon représentant, et que tu puisses recevoir mon amour en abondance et le communiquer autour de toi de manière parfaite. » Est-ce que cette mission ne serait pas un révélateur de ton identité, de ta capacité, de ce que Dieu veut et peut faire au travers de ta vie ? Est-ce que cette mission-là ne serait pas la plus belle chose qui nous soit jamais arrivée ? Plutôt que de passer notre vie à courir de challenge en challenge et problème en problème et de chercher des joies qui somme toute sont éphémères, etc. Peut-être qu'une mission globale qui est positionnée sur l'éternité, peut-être que ça va révéler tout ce qui est en nous et dont on n'a même pas conscience. J'aime comment Dieu, dans son cœur de Père, nous dit, tiens, mon fils, ma fille, je t'ai créé pour beaucoup plus. Vous savez, moi mes enfants, je n'ai pas envie qu'ils restent en couche toute leur vie. Je n'ai pas envie qu'ils fassent juste des dessins et des constructions, j'ai envie qu'ils grandissent dans la plénitude et la totalité de ce qu'ils peuvent accomplir, de leur potentiel, etc. Dieu, c'est exactement pareil avec nous. Ne continuez pas à vivre juste une vie qui est exactement la même que tout le monde autour. Quand tu peux te positionner dans mon amour et avancer dans l'assurance et la foi et l'identité qui sont contenues en moi, laisse-moi te combler et te montrer que tu es capable de beaucoup plus. Moi mes enfants, je leur dis, ne vous contentez pas d'être toboggan, venez, je vais vous apprendre à monter au-dessus sur les toits, etc. Enfin, les toits des jeux, on est d'accord, hein. Mais d'accord, alors il y en a certains, je dois au contraire les surveiller parce qu'ils y vont avant même qu'ils sachent le faire, mais j'ai envie de les pousser, j'ai envie de leur apprendre beaucoup plus. Mon fils, quand il me fait des petits ponts, des roulettes, Dieu a envie de nous pousser, de nous dire, tu peux marcher dans ma puissance et dans ma présence, tu peux amener quelque chose aux gens dont ils ont toujours rêvé, mais ils ne savent pas comment mettre le doigt dessus. Tu peux exprimer à la fois toi individuellement et puis au sein de la communauté des croyants rassemblés, tu peux exprimer un amour que le monde ne connaît pas. Le monde le veut, le désire, le cherche partout. Il parle d'amour partout dans tous les films et les musiques. Et partout, on parle d'amour et de puissance. Tu peux, toi, leur montrer le véritable amour, ce que tout le monde recherche, un amour qui ne tient pas compte des fautes, un amour qui est inconditionnel, un amour qui est éternel, un amour qui donne au lieu de constamment exiger. Tu peux leur montrer l'amour du Père. Et quoi de mieux pour révéler la nature et le cœur du Père qu'une famille ? Une famille d'enfants réunis et qui vivent en exprimant ça. Tu n'es pas un accident. Voilà ce que dit cette mission. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas là juste par hasard. Tu n'es pas venu sur cette terre par hasard. Dieu t'avait en tête depuis le début de l'histoire de l'humanité. Tu as été d'ailleurs créé et façonné par lui. Éphésiens 1:3 nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a choisis, Dieu vous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Vous imaginez quand vous faites, s'il y a des artistes parmi vous, moi je suis absolument pas, mais si, mettons, si je sais pas ce qui me prend, je suis tombé, j'ai pris un coup sur la tête, je me dis, tiens, je vais prendre une toile et je vais peindre. Si je vais peindre, je veux peindre quelque chose, je veux faire une œuvre, peut-être pas d'art, mais en tout cas la meilleure œuvre que je peux faire. Je vais pas me dire, je vais faire un truc qui est ultra moche, tout le monde va vomir en le voyant. Je me dis, je vais faire le mieux, le plus beau de ce que je peux faire. Imaginez un Dieu parfait, éternel, immortel, qui fait une œuvre d'art. Le plus beau de ce qu'il peut faire, parce que Dieu ne peut pas faire autrement. Dieu ne peut pas donner le moins, moins que la plénitude de qui il est. Et ce que la Bible nous dit, c'est que tu es l'œuvre d'art de Dieu. Tu es l'œuvre d'art de Dieu. Et Dieu est tellement grand et tellement fort et tellement beau que on peut, au sein de cette mission qui englobe tout le monde, on peut apporter notre touche unique. Parce qu'au contraire, il y a une complémentarité que Dieu a prévue pour porter tous ensemble cette mission qui nous dépasse à tous. Tu es l'œuvre d'art de Dieu. Éphésiens 2:10 aussi nous dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. » Peut-être certains d'entre vous se souviennent de ces moments dans la récré où on voulait faire deux équipes, il y a deux capitaines et puis on choisit chacun son tour. Et ouais, quand on est le dernier à être choisi, ah, ça fait mal jusqu'à aujourd'hui. Là. Ah, j'ai rien qu'à y penser. Eh ben, Dieu et toi, c'est absolument tout l'inverse. C'est non seulement il te choisit en premier, mais en plus il avait la capacité de te créer, de te façonner spécifiquement pour ce qu'il avait envie de faire derrière. Ça, c'est l'appel de Dieu sur ta vie. Ça, c'est ce que la mission révèle. C'est tu es créé pour beaucoup plus que ce que tu penses. Donc maintenant, tu peux te lever, tu peux l'accepter de tout cœur et de dire, hop, de toute manière, c'est impossible par mes propres forces, c'est impossible de manière humaine. J'ai besoin de la puissance, de la présence de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit, mais je veux prendre à cœur la mission que tu as mise sur ma vie parce que je ne veux pas être une Formule 1 qui dort dans un garage ou qui n'arrive pas à passer les dodanes parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Je veux être précisément là où tu as envie que je sois. Et je ne connais pas ta vie, d'où tu viens, ce par quoi tu es passé, etc. Mais laisse-moi te dire, il n'y a absolument rien qui peut te disqualifier du sceau de Dieu sur ta vie. Peut-être l'âge, peut-être que tu te penses trop âgé. Moïse, il avait 80 ans quand Dieu l'a appelé, il l'a tiré du désert, il a dit hop, tu pensais déjà être parti à la retraite. Non, je veux que tu libères le peuple d'Israël de la plus grande puissance militaire du moment et que tu les emmènes jusque dans le pays promis. L'âge, c'est pas une limite pour Dieu. L'âge ne pourra pas couper la mission que Dieu a sur ta vie. Tes actions, ça ne peut pas te disqualifier. Imagine un peu l'apôtre Paul, celui qui a écrit les deux tiers du Nouveau Testament, avant d'être appelé par Dieu, avant d'accepter l'appel de Dieu, il a tué des dizaines de chrétiens. Il a tué des chrétiens. Et pourtant Dieu lui dit, hop, j'avais prévu beaucoup plus pour toi. Reviens, ça c'est ma mission pour toi. Tes échecs non plus ne peuvent pas te disqualifier. Abraham, qui était l'ami de Dieu, il est béni par Dieu, etc. Plusieurs fois, il a menti par rapport à sa femme pour protéger sa vie. C'est d'un égoïsme et d'un cynisme hallucinant. Et pourtant, Dieu lui-même le défendait. Non, Abraham, il est de mon côté. Parce que c'est ma grâce qui est sur sa vie, c'est pas par ses propres œuvres. Tes échecs ne peuvent pas te disqualifier. Rien ne peut te disqualifier et n'empêcher l'amour de Dieu sur toi. Que ça soit la famille d'où tu viens, peu importe ta lignée familiale. Il y a même des enfants de prostituées qui ont été utilisés par Dieu de manière puissante dans la Bible. Rien ne peut te disqualifier de la mission de Dieu qui est positionnée sur ta vie. Ce n'est même pas les circonstances extérieures. Comment est-ce que, ah non, mais je ne suis pas au bon endroit, je n'ai pas la bonne forme. Non. Joseph, il avait un rêve et il avait une mission, et pourtant il a été ballotté à droite, à gauche, etc. Mais dans tout ça, Dieu était avec lui, donc la mission pouvait s'accomplir. Donc, quand on voit cette si grande et si belle mission sur notre vie, maintenant, allez par le monde. C'est quelle déclaration d'amour et de confiance de Dieu sur chacune de nos vies et sur nous tous en tant que peuple. Une mission impossible ? Ouais, ça n'est possible qu'avec un Dieu spécialiste de l'impossible, un Dieu éternel. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prendre un chant et après j'aimerais prier pour certaines personnes.
Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église, merci de visiter www.hillsong.fr.